Donc, Eric, je vous invite de Vienne. Et Jean, est-ce que tu peux venir et prier pour Eric, s'il vous plaît?
Merci, Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce matin, Seigneur. Amen. Merci, tu nous as réunis ce matin pour écouter ta parole, Seigneur.
Amen.
Et je te prie simplement que, Seigneur, tu dois purifier ton serviteur, ton messager Eric. Ce qu'il va dire, ce n'est pas lui-même, hein, c'est toi qui t'inspires lui en esprit, Seigneur. Et nous devons prêter l'attention d'écouter tout ce qu'il dit, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Et en plus de tout ce que nous allons écouter ce matin, et chacun de nous va rentrer chez lui,
amen,
comme un chèvre qui est dans le pâturage, qui a mangé des herbes.
Amen.
Et le soir, il va brouter petit à petit, et le bon qu'il prend en lui, et le mauvais qu'il jette, Seigneur. Et nous te remercions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Merci, Papa.
Oui, comme des brebis. Comme des brebis, nous sommes appelés à brouter. Amen. La bonne nourriture que le Seigneur va nous donner ce matin. Amen. Il est bon de passer du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Et que ce matin, eh bien, sa parole soit une source d'édification, une source dans laquelle nous allons puiser le renouvellement de notre âme, et que nous soyons amenés à encore mieux comprendre le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Alors je prie vraiment pour que sa parole vienne nous éclairer à nouveau, et nous amener encore davantage dans la profondeur. La foi, nous déclare Paul, elle ne résulte pas d'un ressenti et d'un sentiment, et j'approuve la prière de ma sœur. La foi, elle vient de l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et non pas d'un ressenti. Alors on ne vient pas chercher l'expérimentation de quelque chose, mais c'est la parole qui vient convaincre notre âme et notre cœur. Donc j'ai été très à l'écoute de ce qui a été dit ce matin et j'ai été très édifié par les prières qui se sont additionnées ici dans cette assemblée, parce qu'elles parlent à notre cœur et elles nous préparent à écouter Dieu, à écouter le message qui a été déposé dans mon cœur. J'aimerais vous poser une question, puisque nous allons engager la deuxième partie concernant le prophète Moïse, cette grande figure biblique. Grande figure biblique. Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Dieu a tant aimé Moïse? Pourquoi Moïse a trouvé grâce devant Dieu? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Pourquoi est-ce que c'est Moïse qui a été choisi? Tu veux répondre, ma sœur? Absolument. C'était un homme qui souffrait de l'injustice, qui n'aimait pas l'injustice. Et il y a trois versets qui viennent nous éclairer sur l'attitude de cet homme, de ce prophète, qui ne supportait pas l'injustice. Et je sais que parmi nous, au milieu de nous, certains ne supportent pas du tout l'injustice. Je crois que le Seigneur, il aime ceux qui n'aiment pas l'injustice, mais qui sont justes dans leur cœur. Cela va sans dire, parce que cela ne sert à rien de ne pas supporter l'injustice et d'être injuste soi-même. Or, il n'y avait pas d'écart dans le cœur de Moïse. Il était juste et il ne supportait pas l'injustice. Je vous donne trois versets qui montrent l'état d'esprit de Moïse. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisi. Et qu'il fut même considéré comme l'ami de Dieu. Le seul homme, nous dit les Écritures, le seul homme qui a eu un face-à-face avec l'Éternel, qui était dans l'intimité avec Dieu et qui était l'ami de Dieu comme Abraham. Or, je trouve quel privilège aujourd'hui d'être les amis de Dieu, d'être les amis de Jésus-Christ. C'est le chant qui nous a été rappelé. Parce que dans l'Ancien Testament, Moïse a trouvé grâce et il était l'ami de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez le type de relation engagée entre Moïse et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à travers le feu qui est venu consumer, mais sans brûler, sans détruire l'arbre. Et à l'intérieur de ce feu brûlant d'amour, Dieu parle à Moïse comme un ami, en face à face. Ne croyez pas que le Seigneur soit distant et éloigné de chacun d'entre nous parce qu'il veut ce matin parler en face à face à ton cœur. Ce matin, le Seigneur a choisi de venir te rencontrer dans l'intimité de là où tu te trouves. Il va avoir une rencontre en face à face, comme il a eu cette rencontre avec le prophète Moïse. Ne croyez pas en disant « mais je ne suis pas Moïse, moi ». Ne croyez pas un seul instant, mes frères, que le Seigneur soit si éloigné et si distant. Il aime chacun d'entre nous. Et vous ne pouvez imaginer à quel point il peut nous aimer et nous inviter à le rencontrer. Alors, je voudrais revenir sur le choix qui a été fait et vous dire ces trois versets qui montrent que le cœur de Moïse était un cœur juste. Moïse sortit, c'est dans le livre d'Exode au chapitre 2, on va passer rapidement, ce sont des extraits que je vais sortir, non peut-être pas de leur contexte, mais sortir pour vous mettre en exergue la dimension de justice qui habitait le cœur de Moïse. Au chapitre 2 d'Exode, au verset 11, il est dit que Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il prit conscience que Pharaon, l'Égypte, faisait peser de lourds fardeaux sur des hommes et des femmes qui étaient tenus en esclavage. Et Moïse ne supporta pas qu'un Égyptien ait humilié un Hébreu, et au point que cela l'a fait sortir des gonds, puisque Moïse, dans sa colère, tua l'Égyptien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Moïse ne supporte pas cette injustice. Il y a un deuxième verset, et cela suit le premier. Il y a une dispute entre deux Hébreux qui se battent. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain ? Pourquoi frappes-tu ton prochain ? Moïse ne supporte donc pas l'injustice. Et il y a un troisième événement lorsque il quitte le pays d'Égypte, il se rend à Madian, où il va faire paître le troupeau de celui qui allait être bientôt son beau-père, que l'on appelle Jéthro, ou bien un autre nom hébreu, mais on se souvient plus du nom de Jéthro. Et là, il voit que les filles de Jéthro sont humiliées par les bergers, qui les chassèrent. Chassèrent, c'est cette femme qui vient chercher l'eau au puits. Moïse, une nouvelle fois, ne supporte pas l'injustice. Une nouvelle fois, ne supporte pas l'injustice qui est faite à ses cette femme qui venait puiser l'eau auprès du puits. Trois attitudes qui montrent que le cœur de Moïse était un cœur juste. Il sans doute qu'il n'était pas juste de tuer l'Égyptien. Par la suite, Moïse allait apprendre que cela fait partie des commandements de Dieu, tu ne tueras pas ton prochain. Mais il ne connaissait pas encore la loi qui allait lui être révélée. Mais Moïse était un homme juste. Et c'est un exemple et un modèle pour chacun d'entre nous. Et vous allez en convenir, nous allons mettre la focale sur la vie de Moïse, son appel et son ministère. Je voudrais vous lire trois autres textes dans Deutéronome, au chapitre 34, verset 10, pour vous rappeler quelle figure était Moïse. Il n'a plus paru, nous dit les Écritures, en Israël, de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. L'Éternel connaissait face à face Moïse. Dans Exode, au chapitre 3, à partir du verset 7, je ne vais pas lire le verset 8, je vais ensuite aller du verset 9 au verset 12. Au chapitre 3, la scène se joue dans le buisson ardent. J'en avais dit quelques mots précédemment. L'Éternel dit, et il s'exprime dans le feu de ce buisson ardent. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est ce parallèle. Lorsque Moïse descendit voir ses frères, vit ses frères et vit la souffrance de ses frères, Dieu descendit et comprit la souffrance et la douleur que l'Égypte faisait peser sur les Hébreux. C'est juste extraordinaire, hein, ces parallèles qui nous rendent sensibles sur la dimension de compassion à laquelle le Seigneur est tellement attaché. Dieu est attaché à la compassion. Je pense que dimanche prochain, l'accent va être mis sur cette dimension. Je ne veux pas être prophète, mais je crois que la réforme de l'Église, elle tiendra à notre capacité de compassion et de justice qui habite notre cœur. J'ai hâte d'être dimanche prochain. Je ne prêcherai pas, mais j'écouterai la parole de Dieu. Je poursuis. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Puis Moïse enchaîna. Notez également l'autre aspect. Lui qui est adoptif, l'enfant adopté par la fille de Pharaon, qui est dans la cour de l'Égypte, qui est un haut dignitaire de l'Égypte. Moïse est un haut dignitaire de l'Égypte. L'humilité de Moïse. Et il répond à Dieu. Alors qu'il est dans le face-à-face avec Dieu. Dieu le missionne et l'envoie. Et Moïse de dire à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, 1 million de personnes. Qui suis-je? J'ai pas les qualités. Et en plus, il faut savoir que Moïse bafouillait. Moïse ne savait pas parler. Il avait du mal à enchaîner deux mots à la suite. beau gosse. Il était beau gosse. Probablement dans une stature impressionnante. Mais alors, quand on l'entendait parler, il valait mieux rester couché. Alors, moi, tu me choisis pour parler à Pharaon qui suis incapable d'enchaîner deux mots à la suite. Mais c'est toi que je choisis. C'est toi, Daniel, que je choisis. C'est toi, Pascal, que je choisis. C'est toi, Graham, que je choisis. Graham, l'anglais, que je choisis. C'est... Mettez-vous dans les contextes. Dieu fait le choix, non pas par l'apparence, mais il fait le choix parce qu'il voit le cœur juste. Et c'est ce cœur juste qui va être saisi pour parler à Pharaon. Je te choisis, Christian, pour aller parler au président Macron. Je te choisis, Christian. Mais qui suis-je, Seigneur ? Eh oui, c'est toi que je vais choisir. Vous comprenez ? Replacez les termes de ce que je dis dans les contextes de ces moments, de cet épisode que vit Moïse. Il peut n'être que troublé d'être choisi par Dieu pour parler à l'Égypte, pour parler à Pharaon. Extraordinaire. Mais Dieu choisit des gens humbles. Il ne va surtout pas choisir des orgueilleux pour entrer dans cette mission. Il choisit des gens qui prennent conscience de leurs limites, de leur incapacité. C'est justement parce que tu es un grand incapable que je vais justement te choisir. Si vous avez une autre opinion de vous-même, soyez assurés que vous ne serez pas utile à Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de vous. Mais si vous prenez conscience de que vous êtes un ouvrier inutile, alors soyez assurés, vous pouvez maintenant vous en inquiéter, il va vous choisir. Amen. Waouh. Moi, c'est réconfortant. Hein ? Il choisira des personnes humbles. Et voici ce que dit le Seigneur à cet homme humble qui ne supporte pas l'injustice. C'est dans Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. » J'avoue que mon épouse avait été bouleversée d'apprendre cela. Et quand je vois l'hypocrisie, son nom, des pharisiens qui disaient « Mais pourquoi toi, Jésus, tu te fais appeler Dieu ?» Et voici que Moïse se fait appeler Dieu pour Pharaon par Dieu. C'est bien ça, hein ? C'est exact. Je ne trahis pas la parole. C'est bien ça. Tu es Dieu pour Pharaon. C'est dans les Écritures, hein ? Exode chapitre 7, verset 1. Quand tu diras quelque chose, alors Moïse ne parlait pas à Pharaon, c'est Aaron, son frère, qui parlait pour lui. Mais ce que tu diras, ce que tu ordonneras, ce que je t'ordonnerai, parce que c'est Dieu qui parle à Moïse, Moïse le transmet en bafouillant, en disant et en hébreu. Parler en hébreu vient de là. Aaron exécuté. Aaron exécuté l'ordre de Dieu. Et j'ai lu Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le message de Jean-Marie. Et nous sommes nombreux à l'avoir apprécié. Parce que c'est l'exécution de ce que Dieu a dit à Moïse. Et il nous fallait comprendre le sens des plaies pour comprendre que quelque part, le Seigneur était en train d'arracher le peuple à des contextes qui l'avaient influencé de se séparer définitivement de ce monde rempli d'idoles. Amen. On comprend mieux. On comprend mieux que le Seigneur était en train d'éduquer le peuple pour l'amener à se consacrer totalement à ce Dieu vivant qui était venu se révéler en face à face à Moïse. Moïse, considéré comme le plus grand prophète d'Israël, il est cet homme qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Une figure biblique absolument marquante. Et son message, comme nous le savons, et comme le relatent à plusieurs reprises les évangiles, a été, et nous l'avons lu dans l'évangile de Jean, dans les études bibliques que nous menons chaque semaine, nous voyons bien combien les pharisiens déformaient le message de Moïse, les Écritures. Et combien nous-mêmes, nous pouvons peut-être parfois tordre les Écritures, et le Seigneur veut nous reprendre là-dessus pour que nous revenions à une théologie saine. Et même la théologie contemporaine n'a peut-être pas pris en mesure toute la dimension de l'appel prophétique de celui qui a été appelé par Dieu son ami. Dieu a appelé Moïse son ami. L'ami de Dieu, comme le fut Abraham. Et comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. C'est dans le livre d'Exode 33, 11 que l'on a cette dimension de l'amitié que Dieu a pour Moïse. Alors on sait que Moïse a apporté la loi au peuple israélite. Mais cette loi n'était en soi que la préfiguration des choses à venir. La Bible nous parle de l'ombre des choses à venir. Ainsi, nous lisons bien dans plusieurs épîtres, lettres du Nouveau Testament, que ces dernières attestent que Moïse a été l'instrument d'une révélation qui le dépasse lui-même. Probablement que Moïse était dépassé par la révélation qui allait au-delà de lui-même. Au-delà de sa personne, au-delà d'une époque, au-delà des débuts de l'histoire d'Israël. C'est à Moïse que Dieu révèle les origines de la création. C'est à Moïse que Dieu révèle les origines de l'humanité. Et c'est à Moïse que Dieu lui révèle ses projets pour Israël. C'est à Moïse que Dieu révèle ses lois divines. Waouh, tout pour un même homme. 40 jours, 40 nuits, dans l'intimité avec Dieu. 40 jours, 40 nuits. Et le Seigneur prend soin de lui. Il le prend dans ses bras, comme un bébé. Il le met dans un rocher, dans un coin du rocher. Et alors ils ont un dialogue. 40 jours, 40 nuits. Face à face. C'est ce que les Écritures nous disent. Face à face. Il est nourri par la présence de Dieu. Comme Jésus, plus tard, va être nourri par la présence dans le désert avec cette relation intime avec le Père. Mais la différence, c'est que Jésus vient du Père et le Père est en lui. Moïse est un homme qui est en face à face avec le Créateur. Amen. C'est pour ça que nous avons eu cette exhortation à faire cette rencontre avec le Père, de passer 3 jours dans sa présence pour intimement connaître le Père, nous priver de tout, de nourriture, pour être dans la relation avec le Père, dans cette intimité avec laquelle le Seigneur veut que nous rencontrions sa présence. Je reviens à ces lois divines que Dieu révèle à Moïse. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens que les paroles de Moïse n'étaient que l'ombre des choses à venir. Que la loi de Moïse préfigurait un événement imminent qui allait venir dans le monde. Et on lit ceci, c'est dans le chapitre 2 de Colossiens, verset 16, verset 17. Je ne vais pas lire la totalité des versets, je vous renvoie à la lecture complète, à la complétude des versets, mais il est dit que ces paroles, les paroles de Moïse, la loi, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Mais le corps est en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Paul nous dit que la loi de Moïse ombre des choses à venir, mais que c'est bien en Christ que nous vivons une nouvelle grâce. Cette nouvelle grâce, nous le vivons dans son corps crucifié, le corps crucifié de notre Seigneur. Amen. Parce que nous avons nous-mêmes, pour bien que vous le compreniez, nous avons nous-mêmes besoin de libérateurs. Nous avons besoin d'un grand libérateur. Est-ce que vous n'êtes pas tenu en esclavage? Nous avons des péchés, nous avons des habitudes, et nous avons du mal à nous défaire de nos péchés. Nous le savons bien. Je ne viens pas à être un accusateur, hein. Comprenons bien. Le péché, c'est un but manqué. Chaque fois que je me détourne de Dieu, c'est que quelque part, quelque chose m'attire, mais me détourne de ma présence et d'un retour à Dieu. Seigneur, hier soir, comme un enfant, il me dit « file dans ta chambre, il va lire ma parole ». Et il m'a dit la même chose pour ce soir. Il m'a dit « file dans ta chambre et tu vas lire ma parole ». Parfois, le Père, il est comme ça avec moi, hein, je suis désolé. Ça ne vous arrive pas de l'entendre dire « hey, va dans ta chambre, va lire ma parole, va dans la chambre haute, prends du temps pour moi ». Amen. Seigneur, je voudrais terminer mon petit programme TV, j'ai des informations à regarder, c'est très intéressant. Non, file dans ta chambre, j'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose à te dire, prends du temps pour moi. Amen. Ou bien file, va voir ton frère et ta sœur qui ont besoin de me voir et de te rencontrer, d'avoir un face-à-face, parce que Dieu a bien un face-à-face avec nous. Dieu veut cette intimité, mais il veut aussi que tu exerces cette intimité avec tes frères et sœurs, que tu ailles les rencontrer en vis-à-vis, en face à face. Alors on se réjouit d'entendre la parole en disant « Dieu a rencontré en face à face Moïse ». Mais oui, mais le Seigneur te demande aussi de rencontrer en face à face ton prochain. Si tu veux le rencontrer, va rencontrer ton prochain. Vous voyez toute la dimension ? Waouh, ça nous bouscule là. C'est fait exprès. Hein. Amen. L'Éternel interpelle nos cœurs. Dieu a pris soin de Moïse. Prenons soin de notre prochain. Moïse, comme messager de Dieu, a été la préfiguration prophétique de Jésus. Moïse, comme messager de Dieu, a été la préfiguration de Moïse, le révélateur d'une nouvelle promesse, comme un testament, annonciateur d'une nouvelle circoncision, d'une nouvelle loi qui allait être gravée dans nos cœurs, mais non une loi extérieure comme nous pouvions l'appliquer à tout être humain dans sa propre chair. Mais en réalité, notre chair étant incapable de nous soumettre à Dieu, le Seigneur est venu à travers son sang changer l'état de notre cœur, circoncire notre cœur et nous emmener dans la dimension de toute sa grâce pour vivre dans la grâce, la libération, l'affranchissement, sans que nous ayons besoin de faire le moindre effort. C'est sa grâce qui vient à notre secours et c'est avec sa grâce que nous pouvons compter chaque jour la transformation de notre propre vie. La loi de Moïse devait donc être une démonstration de cet état de fait. Et Jésus n'a cessé d'évoquer l'hypocrisie de la loi mosaïque portée par le pharisianisme qui tordait le message de Moïse. L'auteur du livre des Hébreux ne dit pas, mes amis, autre chose. Et je vous donne donc la version en français courant que j'ai choisie. Donc ce n'est pas forcément la version en français plus ancien, mais j'avais besoin moi-même de comprendre ce qui était dit pour vous le partager. Hébreux 10.1. Je vous la donne en français courant, parce qu'elle est plus explicite. La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Donc, cela confirme ce que Paul disait aux Colossiens, l'ombre des choses à venir. Ici, l'auteur des Hébreux dit la même chose, l'ombre des biens à venir. Écoutez bien, et là nous comprenons parfaitement le message qui nous est donné. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Et l'auteur ajoute, comment le pourrait-elle avec ses sacrifices toujours les mêmes, que l'on offre année après année indéfiniment ? Les sacrifices ne sont pas capables de transformer le cœur d'un homme, mais le sacrifice de Jésus, lui, est un sacrifice perpétuel, une fois pour toutes. Il a pris ton péché à la croix, une fois pour toutes. Et alors, ce n'est pas ton péché passé, c'est ton péché présent, ton péché à venir. C'est la totalité de ton être que Jésus a embrassé. Il est mort définitivement pour toi, pour toute ta vie. D'accord ? Alors, tu as beau revenir sans cesse, il a pris quand même ton péché. Mais il nous invite à ne plus pécher, hein ? C'est comme le juste et l'injuste. Je crie à l'injustice, mais je suis moi-même injuste. Ça ne vous arrive pas, là ? Oh, ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. Qui n'est pas concerné par sa propre injustice ? Hein ? Je pointe l'injustice chez les autres, mais alors moi-même, je suis très injuste. Je pointe le péché chez les autres, mais alors comme dirait l'autre, hein, ça c'est Christian qui me l'a dit, à chaque fois que je fais ça, il y en a trois qui me visent. C'est pour ça qu'il ne faut jamais pointer le doigt vers quelqu'un, parce qu'il y en a trois qui vous regardent derrière. Merci Christian. C'est utile de t'écouter. Il importait donc de réhabiliter la figure de Moïse. Vous comprenez ? Pour que nous lisions l'Ancien Testament comme le livre qui nous parle de Jésus. Ça, c'est vraiment la mission un jour, quand j'ai découvert que Jésus dit « J'ouvre l'intelligence des disciples d'Emmaüs afin qu'ils comprennent toutes les Écritures, car toutes les Écritures parlent de moi. » Et j'ai dit à Sabine, écoute Sabine, je vais changer mon regard et ma lecture et je veux découvrir dans l'Ancien Testament qui est Jésus. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, mes frères et sœurs, réconciliez-vous avec toutes les Écritures parce que c'est le même auteur. C'est le même auteur. Pour revenir à la vie de Moïse, je ne vais pas être trop long, hein. Je vais m'arrêter à midi, d'accord ? Puis tant pis s'il y aura une troisième partie, d'accord ? Mais ça ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, nous avons un message important. Mais pour revenir à la vie de Moïse, ce qui me frappe d'emblée, lorsque je parcours la vie de Moïse et celle de Jésus, c'est l'appel commun qu'ils ont reçu. Jésus et Moïse ont un appel commun. Reçu à la fois par le prophète Moïse et reçu par notre Seigneur. En fait, leur appel commun, c'est leur souffrance commune. Leur appel commun, l'appel commun entre Moïse et Jésus, c'est leur souffrance commune. L'un et l'autre ont connu également le rejet. Luc, l'évangéliste, nous le rappelle dans le livre des Actes. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté, renié dans d'autres versions, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Moïse a été renié et rejeté. Souvenez-vous qu'il a été renié par ses frères. Il intervient devant la justice de deux Hébreux qui se disputent. Et puis tu as celui qui frappe l'autre, qui lui dit « Qui es-tu, toi, qui viens juger ?» En fait, ils étaient nombreux à le penser en disant « Mais toi, quelle prétention tu as d'intervenir dans notre dispute ? Qui es-tu, toi, le juge, qui vient intervenir et qui vient nous séparer ? De quel droit tu fais cela ?» Le rejet. Jésus n'a-t-il pas été rejeté aussi par sa nation ? Mais il nous est dit aussi que ses frères ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Donc ils souffrent du rejet. Pourtant, ils sont justes. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. N'est-il pas aussi écrit que ses, les propres frères, donc, comme je vous l'ai dit, n'avaient pas cru au début de, en lui au début de son ministère. Pourtant, Jésus et Moïse ont en commun d'être profondément marqués par cette dimension de compassion. Ils sont remplis de compassion. Jésus et Moïse sont remplis de compassion. Moïse ne supporte pas la souffrance. Jésus est celui qui est venu nous révéler l'amour de Dieu. Le rejet de Moïse comme le rejet de Jésus révèle l'état des cœurs aveuglés par des sentiments charnels, incapables de reconnaître la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation de la compassion de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté dans le cœur de Jésus et c'est à Moïse que Dieu révèle son immense compassion dans le buisson ardent. Je conclus là pour que vous ayez hâte d'écouter la suite. Amen. Donc je veux vous donner la fin de venir pour la prochaine fois. Fin de connaître Dieu. Mais il y a encore des choses extraordinaires que le Seigneur veut nous partager. D'accord ? La manifestation de l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu. Et moi, je pense que le message de dimanche n'est qu'une transition pour justement être le début de l'éclairage de ce projet de Dieu de réformer notre cœur et de réformer notre état d'esprit à jamais. Dieu veut que ton cœur se réforme. Et il s'adresse à chacun d'entre nous. Dieu veut que ton cœur se réforme. Amen. Mais quand je dis cela à mon frère ou à ma sœur, je le dis à moi-même. Dieu veut que ton cœur se réforme parce qu'en l'état, ton cœur n'est pas juste. Et je veux que tu sois marqué par la justice qui habitait dans le cœur de Moïse. Amen. Donc Dieu nous donne un rendez-vous dimanche prochain pour entendre ce message que le Seigneur a déposé dans le cœur de mon frère. Le Seigneur veut une nouveauté de vie d'Église et qu'il y ait une puissance qui traverse l'Église au point que quand nous allons visiter des malades, nous prions pour les malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. D'accord ? Oui ? Afin que quand nous prêchons l'Évangile, ceux qui viennent sont touchés par l'Évangile et se convertissent et donnent leur cœur au Seigneur. Pardon Daniel, je ne veux pas te citer, mais Daniel, tu es venu ce mercredi. Tu es venu tout à l'heure et tu m'as dit « j'ai été bouleversé ». Je ne sais pas ce qui s'est passé, mercredi j'étais bouleversé. Je suis allé voir hier Romain et Lorraine. Et je puis vous dire qu'ils avancent et qu'ils progressent dans le Seigneur. On est dans l'ordre du spirituel, mes enfants. Amen. Et il n'y a pas eu de moralisation, tu t'en souviens, vous êtes témoin de ça. On n'a jamais moralisé Lorraine ni Romain, jamais. On n'a pas été dans l'interdit, on s'est dit, on se met à genoux et on prie l'Éternel. Et l'Éternel agira. Et c'est ce qui se produit. Si vous êtes dans la moralisation, vous ne créez que l'effet inverse. Les gens vous rejettent. Mais si vous priez, si vous intercédez afin que le changement intervienne dans la vie de mon frère ou de ma sœur, le Seigneur interviendra. Amen. Voilà ce que je voudrais vous dire. Intercédez. Nous avons 3 jours d'intercession en Église. C'est un rendez-vous collectif, ce n'est pas le rendez-vous de quelques-uns, des spirituels entre guillemets. C'est le rendez-vous que donne Dieu. C'est une convocation solennelle que Dieu nous donne à tous. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est un rendez-vous d'intimité, de face à face, dans le rocher près de Dieu. Si tu as l'occasion, si tu peux libérer 1 heure, mais viens dans les parvis. 1 heure vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.